Bonjour, vous êtes sur Radio Droit de l'Enfant 18 avec la classe des CM1 de l'école élémentaire de Levé.
Nous sommes en présence de Lina.
Bonjour.
De Sohan.
Bonjour.
D'Alicia.
Bonjour.
Et de Lia.
Bonjour.
Nous avons choisi le thème de la santé à Levé. Nous avons voulu voir ce qui avait changé entre 1989 et 2019. En ce qui concerne l'accès aux soins et à la santé, nous avons contacté le docteur Hélène Guégan, médecin généraliste à la maison de santé de notre commune.
Nous lui avons préparé un questionnaire et voici les réponses, parfois surprenantes, que nous avons récoltées.
En 1989, le prix d'une consultation était de 85 francs, soit 2,95 €, alors qu'aujourd'hui, il est de 25 € pour les plus de 6 ans et de 30 € pour les moins de 6 ans. Parce qu'il nécessite plus de temps et plus d'attention, on remarque une augmentation de prix, du prix de la consultation, mais les parents sont remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle.
Les enfants avaient déjà des vaccins obligatoires en 1989. Le DT polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite seulement.
Depuis 2018, ils doivent être vaccinés en plus contre coqueluche, haémophilus, méningocoque C, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, pneumocoque. 98% des enfants se font vacciner depuis janvier 2018.
Les enfants tombent souvent malades, surtout avant 6 ans. Les maladies les plus fréquentes sont les infections virales, rhumes, angines et les traumatismes. Les médecins remarquent une nette augmentation des cas de surpoids.
Aujourd'hui, les pompiers mettent de 5 à 10 minutes pour venir en aide aux blessés car ils viennent directement de Levé, alors que le SAMU qui vient de Bourges met environ 20 minutes.
À Levé, 5 médecins généralistes et internes, un médecin en formation, travaillent tous à la maison de santé pluridisciplinaire. Avant, chaque médecin avait son propre cabinet. Aujourd'hui, il y a même 2 infirmiers, un dentiste, un kinésithérapeute, un ostéopathe, une sage-femme, un podologue, une psychologue, mais aussi une diététicienne nutritionniste qui répond aux problématiques actuelles des jeunes: surpoids, anorexie, phobie alimentaire, et une psychomatricienne.
Depuis quelques années, les médecins utilisent des outils adaptés aux enfants, des stéthoscopes et des otoscopes plus petits, et une table à langer pour ausculter les bébés.
De plus, des visites obligatoires ont été mises en place pour les enfants de 9 et 24 mois. On peut aussi avoir des visites gratuites chez le dentiste avec l'opération MT dents tous les 3 ans.
À Levé, on trouve une nouvelle pharmacie ouverte depuis 2018 qui a une particularité. C'est un drive qui permet de récupérer les médicaments directement à l'extérieur. Elle a remplacé l'ancien commerce plus traditionnel.
Depuis 1989, on note du moins bien comme la hausse du prix de la consultation, mais aussi beaucoup d'améliorations à Levé, comme la création du cabinet médical tout proche qui offre un grand choix de soins.
Ces soins évoluent encore car Madame Guégan nous a expliqué qu'elle et ses collègues suivaient actuellement une formation pour utiliser un échographe.
Merci à tous pour toutes ces informations. Nous allons maintenant traiter du droit à l'éducation en vous expliquant ce qui a changé à Levé entre 1989 et aujourd'hui.
Bonjour, voici la suite de l'émission de la classe de CM1 de l'école élémentaire de Levé.
Nous sommes en présence de Romane.
Bonjour.
D'Alizé.
Bonjour.
De Chiara.
Bonjour.
Et de Jana.
Bonjour.
Pour vous présenter ce thème, nous avons recueilli le témoignage de notre ancien directeur de l'école, Monsieur Philippe Giraud, qui a travaillé à Levé pendant presque 20 ans.
Nous voulions savoir comment était organisée l'école en 1989. À Levé, il n'y avait que 4 classes en élémentaire et 2 classes plus le CP à la maternelle. Aujourd'hui, 2 classes en maternelle et 5 en élémentaire regroupent environ 180 élèves.
Aujourd'hui, on a des cours simples la plupart du temps. Une structure mobile est là depuis 2006, date à laquelle une nouvelle classe a été ouverte pour accueillir convenablement tous les élèves. C'était provisoire, mais cela dure.
Pour aller à l'école, il faut que les enfants puissent être gardés lorsque les parents travaillent. L'accueil périscolaire n'existe que depuis 2008. En 89, il y avait beaucoup moins d'enfants qu'aujourd'hui et ils étaient souvent gardés par des mamies, des voisins, des grands frères, grandes sœurs, des nounous. Mais il n'y en avait pas assez pour satisfaire tous les besoins du village.
Il faut aussi que les enfants puissent manger le midi à la cantine. En élémentaire, 82 enfants mangent quotidiennement en moyenne. C'est beaucoup plus qu'en 89, où ils étaient 60 maximum. Voici comment se déroulait la cantine en 1989, selon M. Giraud.
Est-ce qu'il y avait une cantine en 1989 ?
Alors, à Levé, il y avait déjà une cantine. Une seule et unique cantine pour tous les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Alors, on mangeait tous dans l'ancienne salle des fêtes. Et puis, il y avait quelques instituteurs d'autres communes aux alentours, dont je faisais partie, qui venaient également manger à la cantine. Alors, les instituteurs étaient au milieu des élèves, sur les tables, des grandes tables où il y avait 10 à 15 élèves par table, et les enseignants étaient au milieu.
Nous avons recueilli également le témoignage de Martine, qui vit à Levé depuis 1989 et travaille depuis longtemps à la cantine.
Est-ce qu'il y avait une cantine en 89 ?
Le bâtiment, c'était à la salle des fêtes que ça se passait.
Est-ce que les repas étaient préparés sur place ?
Oui, ils étaient préparés sur place par des cantinières, oui. C'était les cantinières qui faisaient leur menu. C'était en fonction des saisons. Elles commandaient au boucher du coin, à l'épicerie du coin. Il y a juste quelques surgelés qui étaient commandés. Le pain aussi était pris à la boulangerie, tout ce qui était pâtisserie.
Aujourd'hui, comment ça se passe, les préparations des repas ?
Alors, les préparations de repas se font par une entreprise qui nous livre les repas.
Est-ce qu'il y avait des soucis d'équilibre alimentaire avec une nutritionniste ?
Pas de cas spéciaux. Et je crois que les diabétiques, ils les avaient refusés à l'époque.
Est-ce qu'il y a des cas particuliers aujourd'hui à la cantine ?
Oui, des cas particuliers. Il y a les sans viande, les sans porc et diabétiques où il faut peser les féculents.
Où se déroulent les repas aujourd'hui ?
Les repas se déroulent dans un bâtiment fait exprès pour les enfants, une cantine, où il y a deux services, il y a deux salles pour les maternelles et pour les élémentaires.
Est-ce que le nombre d'enfants a beaucoup évolué depuis 1989 ?
Il y a une grosse évolution des enfants. Maintenant, il y a deux services. Avant, on était très peu et au fil des années, ça a beaucoup augmenté.
D'après toi, à quoi est-ce dû ?
C'est dû sûrement à ce que les mamans sont mises à travailler et les papas aussi. Et une augmentation de la population, je pense.
De nombreuses structures ont été mises en place pour assurer un accès serein à l'éducation. Un nouveau bâtiment de cantine, d'accueil périscolaire, plus d'assistantes maternelles, une classe supplémentaire.
En effet, mais pour certains, les journées sont longues. Des enfants arrivent à 7h et repartent à 18h. Pas facile tous les jours. Nous laissons la parole au plateau suivant qui va vous parler de l'évolution du droit à la culture et aux loisirs sur la commune de Levé.
Bonjour, voici la suite de l'émission de classe de CM1 de l'école élémentaire de Levé.
Nous sommes en présence d'Adrien.
Bonjour.
De Joris.
Bonjour.
De Calvin.
Bonjour.
Et de Lancelot.
Bonjour.
Le choix et l'accès aux activités et à la culture a beaucoup évolué en 30 ans à Levé. En 1989, les enfants pouvaient déjà faire du football et du tennis. Aujourd'hui, il existe dans le village bien plus de structures et d'activités s'adressant aux enfants.
Pour les plus jeunes, il existe les Lapinos. C'est le regroupement des assistantes maternelles pour sociabiliser les enfants de moins de 3 ans. Elles se retrouvent deux fois par semaine à l'accueil périscolaire et proposent des jeux et des activités pour les petits.
Pour les autres, plus grands, l'association Let's Go propose des activités culturelles pour enfants et adultes, des cours de musique, violon, guitare, accordéon, flûte, traversière, mais aussi du chant, chorale, de l'éveil musical et de la danse. Ce sont des activités artistiques très variées qui reçoivent de nombreux jeunes aujourd'hui.
Créa Déco réunit des personnes d'âge très différents et d'origines diverses pour rassembler des idées et créer des productions artistiques. On y fait des activités de loisirs créatifs tous les mercredis matin. Levé de Rideau est une association qui propose tous les mois des spectacles de théâtre, de l'humour, de la musique et s'adresse à toute la population.
Arc-en-Ciel, l'association des parents d'élèves de l'école créée il y a 10 ans, met en place tout type de manifestations qui financent des activités destinées aux enfants scolarisés à Levé. Elle programme aussi école et cinéma à la salle polyvalente dans le cadre du cinéma rural. Les enfants ont également programme aussi également des ciné-goûtés ou des films d'animation récents. Son projet est suivi d'un goûter convivial.
Depuis longtemps, l'accent est mis sur l'accès à la culture, à l'école aussi bien sûr. En suivant le programme école et cinéma, chaque élève a pu voir 15 films durant sa scolarité à l'élémentaire. De quoi donner de bonnes habitudes de cinéphile et apprendre à explorer le cinéma. Le spectacle vivant est très souvent présenté aux élèves avec les spectacles de théâtre ou de musique au bain-douche ou au théâtre municipal de Bourges ou encore à la pyramide de Saint-Amand-Montrond. De nombreuses visites de musées, d'expositions scientifiques ou artistiques, de monuments sont organisés chaque année, encourageant les enfants à fréquenter ces lieux culturels avec leur famille.
Avec l'UCEP, nous avons tous les ans des activités sportives qui nous permettent de rencontrer d'autres écoles du secteur. Nous faisons une course d'orientation en forêt de Soudan, des sports collectifs qui changent chaque année, foot, rugby, hockey, handball, et une rencontre athlétisme, des sorties vélo.
Les classes découvertes avaient déjà lieu en 1989. Elles perdurent encore aujourd'hui. Monsieur Giraud vous raconte comment cela se passait autrefois.
Les classes de découverte existaient-elles en 1989 ?
Eh bien oui, les classes existaient déjà. Ça existe depuis très très longtemps. Et les élèves, principalement les CM2 à cette époque, partaient avec le directeur dans différentes régions de France. Ils sont allés au bord de la mer, ils sont allés en Auvergne, petite montagne, ils sont allés aussi faire des classes de neige en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura même, faire un petit peu de ski de fond. Donc toutes ces classes de neige existent depuis au minimum une quarantaine d'années sur la commune de Levé. Alors à cette époque-là, les élèves ne partaient pas 4 ou 5 jours ou une nuit comme on le fait plus actuellement, ils partaient 21 jours. 21 jours, ça représente 3 semaines. Alors dans l'emploi du temps de ces 3 semaines, il y avait énormément de classes, donc ils faisaient la classe, et l'autre partie de la semaine était occupée également à faire des découvertes, à faire de la pédagogie autour de différentes visites et aussi faire, quand c'était des classes de neige, faire du ski, apprendre à faire du ski ou apprendre à faire du voilier lorsqu'on était au bord de la mer ou à découvrir un tas d'autres professions, par exemple des bûcherons, par exemple des maçons, par exemple un certain nombre de choses qu'on n'avait pas l'occasion de découvrir à Levée.
L'activité piscine existe depuis très longtemps pour les élèves de Levée, mais ils devaient aller à Dun-sur-Oron, au bassin d'apprentissage. Aujourd'hui, ils vont à Saint-Florent.
En effet, les sportifs ne font pas oublier car à Levée, les enfants peuvent pratiquer du foot avec l'ASC, du vélo avec le VTT, du taïso et du judo avec le judo club de Levée, du tennis, du kickboxing, qui a vu se révéler la championne de France junior de cette discipline, Cécile Massereau, de la pétanque, de la pêche, de la gym.
Nous sommes bien chanceuses à Levée car on a de nombreuses activités culturelles et sportives. Il y a beaucoup de loisirs dans une commune de petite taille.
Nous laissons la parole au plateau suivant qui va vous parler du droit à l'égalité et à la non-discrimination.
Bonjour. Voici la suite de l'émission de la classe des CM1 de l'école élémentaire de Levée.
Nous sommes en présence d'Enzo.
Bonjour.
De Gabriel.
Bonjour.
De Raphaël.
Bonjour.
Et de Nolan.
Bonjour.
Contrairement à d'autres pays, nous apprenons tous la même chose à l'école. Tout le monde a le même programme, que ce soit en sport, en maths, en sciences.
On peut venir à l'école, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine ou celle de nos parents. À l'école comme à la cantine, nous accueillons tous les enfants, qu'ils soient végétariens de religion, musulmanes ou diabétiques. Ce n'est pas le cas en 89, comme en témoigne Monsieur Giraud.
Est-ce que tous les enfants du village de Levée vont à la même école ?
Alors, tous les enfants n'allaient pas tous au village de Levée, il y en a qui allaient dans d'autres villages ou en priorité sur Bourges, qui est un petit peu plus loin, mais à cause des parents qui travaillaient également. Oui, donc tous les enfants qui avaient soit du diabète, soit des choses comme ça, des problèmes de santé, n'allaient pas dans le circuit traditionnel, dans l'école de Levée. Ils étaient dans des établissements qu'on appelle des établissements spécialisés, parce qu'on ne pouvait pas à l'époque les recevoir dans les écoles de village. Alors autrefois, les enfants handicapés ne venaient que très rarement à l'école. Il y avait le handicap physique, par exemple un enfant qui s'était cassé une jambe, par exemple, qui venait avec un fauteuil roulant. Là, on les acceptait. Mais pour un handicap plus important, ou qui était vraiment ancré dans la vie de l'enfant, on ne les recevait pas. Alors, les enfants qui étaient handicapés restaient néanmoins à l'école maternelle, jusqu'à ce qu'ils puissent être autorisés à passer à l'école élémentaire. Mais nous, à l'école élémentaire, on ne les recevait plus. Ils allaient après dans d'autres établissements plus spécialisés.
Camille, en CM1, par exemple, à la visite d'un infirmier à chaque repas pour calculer ses besoins en fonction des menus et elle sait ce qu'elle peut consommer. Elle mange avec nous comme tout le monde et peut même aller en classe de découverte comme tous les CM2.
Les filles comme les garçons sont dans la même classe, même en 1989. La plupart des enfants de Levée viennent à l'école du village, sauf des enfants comme Zoé, 9 ans, qui est sourde et qui a besoin d'une école spécialisée. C'est un peu dur de communiquer avec elle, mais on apprend.
Différents enfants handicapés ont été accueillis à l'école. Un enfant qui perdait la vue, à qui on proposait de travailler sur support informatique pour grossir les mots et les images. Je vous propose d'écouter l'ancien directeur de l'école à propos de l'accueil des enfants en situation de handicap.
Alors on pouvait intégrer les enfants handicap que sous certaines conditions et avec l'accord des enseignants et du directeur. Il n'y avait pas d'obligation. Donc je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, donc on avait intégré un enfant qui avait une maladie des yeux, qu'on appelle la maladie de Stargardt, et qui avait donc des problèmes de vision importants. Donc on l'avait intégré en l'équipant la classe de matériel adapté, une loupe grossissante, une télévision pour qu'il puisse voir les objets et les livres et les lettres pour agrandir tout ce qu'il avait besoin de faire. Et puis tout son travail, les livres, tout était agrandi. Donc on passait à la photocopieuse les pages du livre et on les agrandissait en format A3, c'est-à-dire le format A3, c'est 4 fois vos pages de cahier, de petits cahiers. Donc l'handicap, c'est bien intégré dans la classe, mais effectivement, ça demande des conditions particulières. Mettre l'élève près du tableau, avoir le matériel adapté et avoir l'accord, évidemment, des enseignants et des élèves, puisque quand on est avec un enfant qui a un handicap, c'est pas toujours non plus facile.
Nous avons un enfant utilise dans notre école. Il s'intègre très bien au milieu. Il est aidé par un assistant de vie scolaire, tout comme un autre camarade qui, lui, a des troubles de comportement, Mathéo. En CP, sera très bientôt accompagné de son AVS pour l'aider dans ses gestes du quotidien, car la moitié de son corps ne fonctionne pas très bien.
L'an dernier, encore Cynthia venait à l'école en fauteuil roulant. Tout s'est bien passé car elle avait des rampes d'accès aux différents lieux de l'école et des toilettes grand format.
Au final, nous accueillons aujourd'hui tous les enfants, quelles que soient leurs différences, dans les meilleures conditions possibles et cela depuis avant la loi de 2005 qui oblige les écoles à accueillir des enfants en situation de handicap.
Merci de nous avoir écoutés. Nous avons pris plaisir à vous présenter des différents droits de l'enfant autour de la vie à lever. Ces thèmes: droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'égalité et droit à la culture nous ont permis de réfléchir à notre situation et notre environnement. Nous réalisons le chemin parcouru depuis la CIDE au sein même de notre village.
Nous apprenons, pris conscience en comparant avec d'autres situations de vie d'enfants dans d'autres pays, que nous avons de la chance d'être dans notre pays libre où tout est fait pour notre bon et développement et notre bien-être. À très bientôt sur podcast de l'émission où vous pourrez nous réécouter très vite.
Bonjour, vous êtes sur Radio Droit de l'Enfant 18. Nous sommes les élèves de CM2 de l'école élémentaire de Levée.
Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en compagnie de Lana.
Bonjour.
Clara.
Bonjour.
Léane.
Bonjour.
Et Lucille à la technique.
Nous avons lu en classe les articles de la Convention internationale des droits de l'enfant dans une version simplifiée. Notre groupe a choisi le thème de la vie privée des enfants en lien avec les articles 15 et 39, qui explique que les enfants ont le droit de choisir leurs amis et de créer ou de rejoindre des groupes tant que ça ne met pas d'autres personnes en danger, et que les enfants ont le droit au respect de leur vie privée.
Nous avons posé quelques questions à nos parents pour connaître le mode de fonctionnement de leur famille. Nous voulions savoir en particulier quelle était leur relation avec leurs parents concernant leur vie privée. Certains étaient obligés de tout raconter à leurs parents qui donnaient aussi leur avis sur le choix de leurs amis ou plus tard de leurs amoureux. Quand une lettre arrivait pour un enfant, ce qui était assez rare, les parents voulaient savoir ce qu'elle contenait.
Quand ils étaient petits, il n'existait que des téléphones filaires. Il n'y en avait souvent qu'un dans la maison. Seuls les adultes décrochaient le téléphone. Les enfants ne pouvaient pas le faire avec une autorisation. Quand le correspondant était rarement pour eux, les adolescents n'avaient donc pas de conversation très privée au téléphone. Par contre, nos parents faisaient comme nous. Ils avaient souvent un journal intime. Certains adultes respectaient cette intimité, d'autres pas.
Aujourd'hui, on remarque que les enfants ont plus de coins privés pour eux. D'abord, les enfants ont souvent une chambre, chacun, ce qui permet d'avoir plus facilement des moments d'intimité. Maintenant, la majorité des enfants de plus de 10 ans a un téléphone portable et accès à des réseaux sociaux. Ce téléphone est un moyen de construire un espace privé plus facilement qu'autrefois. Le choix des amis passe souvent par le téléphone et les réseaux sociaux, les jeux en ligne. Néanmoins, cette liberté ouvre d'autres dangers.
Les enfants doivent être guidés dans leur usage des outils technologiques pour justement préserver leur vie privée. Ils doivent apprendre à ne pas trop s'exposer aux autres en postant des photos, des messages qui pourraient être utiles contre eux. Des lois protègent les enfants, mais ces lois ne peuvent rien faire si les enfants n'apprennent pas avec les adultes à se servir des outils. Les photos prises entre amis doivent rester dans les téléphones des amis et ne pas être partagées avec d'autres personnes sans que chacun ait donné son autorisation. Sinon, le partage sauvage des photos peut retourner en harcèlement.
La vie privée des fautes est donc de mieux en mieux prise en compte, mais il faut rester vigilant quant à l'utilisation des téléphones portables à des réseaux sociaux. La chronique suivante concerne le droit des enfants d'avoir une opinion.
Bonjour, voici la suite de l'émission des élèves de CM2 de l'école de Levé.
Bonjour, je suis Paul. Les élèves qui ont construit cette chronique sont Camille.
Bonjour.
Archibald.
Bonjour.
Océane.
Bonjour.
Lola.
Bonjour.
Et Lénie à la technique.
Nous avons choisi les articles 12 et 13 qui disent que les enfants ont le droit de donner leur opinion et que les adultes les écoutent et tiennent compte de leur opinion. Et que les enfants ont le droit de chercher des informations et de partager ce qu'ils pensent avec les autres, que ce soit en parlant, en dessinant, en écrivant ou par n'importe quel moyen, sauf si ça met d'autres personnes en danger.
Nous avons mené une petite enquête sur le droit de parole des enfants, sa prise en compte par les adultes. Il y a 30 ans, il s'avère que les enfants n'avaient pas le droit d'exprimer leur opinion. Par exemple, il leur était souvent interdit de prendre la parole à table. De même, ils ne posaient pas trop de questions sur les sujets qui les préoccupaient. Les réponses tenaient dans la formule « Mon père ou ma mère dit que il était à l'heure difficile de se forger sa propre opinion. »
Tout cela a beaucoup évolué. Les enfants sont beaucoup plus écoutés par les adultes. Ils osent poser des questions sur les sujets qui les touchent. Ils s'adressent aux adultes de leur entourage, parents, famille, amis, enseignants, en qui ils ont confiance. C'est en confrontant plusieurs avis qu'ils se forgent en opinion.
Dans beaucoup d'écoles, actuellement, il existe des conseils de coopération. Chaque classe élit 2 délégués. Tous les sujets liés au fonctionnement, à l'équipement de l'école peuvent être abordés. Ces dispositifs permettent aux enfants de comprendre le fonctionnement de la vie démocratique, d'y trouver sa place et d'en être acteur
ils s'investissent et améliorent avec les adultes un lieu d'apprentissage et de vie. Ce sont des conditions favorables pour apprendre à écouter les différents acteurs, à exposer son opinion et prendre position dans un débat. Les situations de divorce sont nombreuses et souvent difficiles pour les enfants qui n'ont pas choisi la séparation de leurs parents. Les lois votées pour la protection des enfants prennent en compte l'avis des enfants sur ce qui sera le plus adapté pour vivre dans les deux maisons de leurs parents. Les enfants peuvent exprimer leurs souhaits, leur vécu et entendu. C'est une garde avancée dans le quotidien des enfants.
Là encore, l'enfant trouve sa place dans la société grâce à l'écoute des adultes et la prise en compte de son opinion. La chronique suivante traite de la drogue et du droit des enfants d'en être protégés.
Bonjour, voici la suite de l'émission des élèves de CM2 de l'école de Levé.
Bonjour, je suis Angèle. Les élèves qui ont construit cette chronique sont Louis.
Bonjour.
Simon.
Bonjour.
Aurore.
Bonjour.
Nous avons choisi l'article 33 qui dit que les enfants ont le droit d'être protégés de la drogue et du trafic de drogue.
Il y a 30 ans, les drogues existaient déjà. La cocaïne, l'héroïne. Elles n'étaient pas aussi répandues dans la population. Elles étaient moins à la portée des enfants. En plus, la consommation de drogue était illégale. Et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, la drogue est plus accessible dès le collège, dans certains secteurs. Elles sont également présentes en plus grande quantité et déclinées sous différentes formes. Comprimés, médicaments, poudres. Certains lieux sont clairement identifiés comme étant des espaces de vente de drogue dans certains quartiers de grandes villes. Ce qui est inquiétant, c'est le développement des trafiquants de drogue. C'est comme s'ils en avaient fait leur métier. Le problème, c'est que cette drogue tue des gens.
Face à ce développement de la consommation de drogue, des actions de prévention sont mises en place dans les collèges et les lycées par des infirmières scolaires et des bénévoles d'associations. Il existe aussi un site drogueinfoservice.fr ou au 0800 23 13 13. Quand une femme consomme de la drogue et qu'elle met au monde un enfant, le bébé doit être soigné car il présente un syndrome de manque comme les gens qui consomment de la drogue. Pendant la grossesse, le bébé consomme la drogue en même temps que sa mère. À la naissance, il a besoin de beaucoup d'attention, car il pleure plus qu'un autre bébé. Il est énervé, il lui faut beaucoup de calme. Parfois, pour le guérir de cette dépendance à la drogue, il faut utiliser des médicaments qui ressemblent à la drogue pour le sevrer petit à petit. C'est-à-dire lui enlever l'habitude de la drogue. Pour les futures mamans, il est proposé d'arrêter les drogues avant la grossesse en utilisant parfois des médicaments de substitution. C'est une cure de désintoxication.
Les adultes qui encadrent les enfants sont mieux formés et sensibilisés aux problèmes de la drogue. Ainsi, les enfants sont mieux protégés. La chronique suivante traite de la maltraitance et du droit des enfants d'en être protégés.
Bonjour, voici la suite et la fin de l'émission de l'école de Levé.
Bonjour, je suis Mathis. Les élèves présents au micro pour cette chronique sont Aglaé.
Bonjour.
Ewan.
Bonjour.
Océane.
Bonjour.
Et Antonin.
Bonjour.
Et Enzo à la technique.
Nous avons choisi l'article 19 qui dit que les gouvernements doivent s'assurer que l'on prend soin des enfants et qu'ils doivent les protéger contre la violence, les mauvais traitements et la négligence de la part de toute personne qui s'occupe d'eux.
Nous avons interrogé nos familles sur leur connaissance de la maltraitance en France ou dans leur entourage. Avant que la Convention internationale des droits
de l'enfant ne soit créée, la maltraitance des enfants existait. Aujourd'hui, encore, malheureusement, des enfants meurent sous les coups de leur père, leur mère ou le conjoint de leurs parents. La maltraitance peut être physique mais aussi psychologique, c'est-à-dire que les enfants sont insultés, humiliés. Dans ce deuxième cas, elle est invisible. Il n'y a pas de blessure physique. Elle est beaucoup plus difficile à détecter.
Mais nous avons appris que le gouvernement français a fait voter des lois pour aider et protéger les enfants. Au fil des années, ces lois ont évolué. On était modifiés pour suivre l'évolution de la société. À l'école, les châtiments ont été interdits. Les maîtres ou les maîtresses ne peuvent pas taper un enfant. Les punitions ont aussi été adaptées. Aujourd'hui, le maître ou la maîtresse explique les événements et fait réfléchir l'élève sur son attitude négative.
Une autre forme de maltraitance est le harcèlement. Cette situation grave. Dans ce cas, ce sont des enfants qui maltraitent d'autres enfants. Les enfants harcelés sont rendus tellement malheureux que leur vie devient très difficile. Souvent, ils n'arrivent plus à travailler à l'école tellement ils ont peur d'y venir. Des lois et des actions pour protéger les enfants harcelés ont été créées. Il y a aussi beaucoup de prévention. L'année dernière, dans notre école, nous avons participé à des jeux coopératifs avec Alice de l'OCCE pour apprendre à exprimer nos émotions et ainsi mieux tenir compte des autres.
Des lois ont été votées pour interdire les violences à la maison, coups, fessées, etc. Maintenant, les parents qui frappent leurs enfants peuvent être sanctionnés par la justice. En plus, pour éviter que la violence ne s'installe dans la maison, il existe des suivis éducatifs et psychologiques pour les enfants maltraités et pour les enfants et pour les parents agresseurs. Ce sont des éducateurs, c'est leur métier, qui aident les parents à mieux éduquer leurs enfants sans passer par la violence.
Le 119 a été créé depuis la loi du juillet 1989. Depuis mars 1997, il est devenu un numéro d'urgence accessible sans payer depuis n'importe quel type de téléphone. C'est un appel anonyme qui protège l'identité de l'enfant.
La Convention internationale des droits de l'enfant, signée par les gouvernements, les incite à prendre des mesures de protection de l'enfant dans lesquelles l'enfant est au cœur de la préoccupation des adultes.
Les quatre thèmes abordés montrent que les droits des enfants sont de plus en plus pris en compte, mais qu'il reste tout de même beaucoup de travail. C'est la fin de l'émission des CM2 de Levé. Au revoir.